BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la bourse à l'état pur, à l'état brut, sans additifs. Tous les ingrédients de BFM Bourse sont naturels. Premier jusqu'à 18h, bienvenue à tous. Il nous accompagne, il est en fil rouge, là, en plateau, à mes côtés. Antoine Larigauderie, rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Ce sera tension. On a un CAC 40 qui était bien orienté depuis le début de journée, qui vient de passer dans le rouge. Moins 0,06%, 8238 points. On a même une baisse vraiment marquée de l'Euronext Tech Leaders qui recule d'1,6%. Moins 1,8% pour le Nasdaq, moins 0,35% pour le Dow Jones. Tout ça à cause d'une économie américaine qui surprend, mais qui surprend pas dans le sens du marché. C'est-à-dire que les chiffres de l'emploi sont quand même bien, bien supérieurs aux attentes. De quoi vraiment être négatif désormais sur les perspectives de baisse de taux du côté des États-Unis. Et de ce fait, les taux se tendent. Le 10 ans américain, 4,55. Ça bouge très vite. 3,04 pour le 10 ans allemand et 3,68 désormais pour le 10 ans français.
Effectivement, on a deux fois plus de créations de postes qu'attendu aux États-Unis le mois dernier. Alors, des créations de postes notamment dans les segments hôtellerie, loisirs, collectivités locales, santé. En revanche, des destructions de postes dans les activités financières qui, elles, au contraire, donc, ont vu les postes de plus en plus reculer. On regardera aussi avec nos experts dans un instant, Patrice Gautry, si on a de premiers impacts de l'IA aussi dans ces chiffres de l'emploi. Toujours est-il qu'on a un rapport mensuel sur l'emploi bien meilleur qu'attendu, une hausse des salaires horaires conforme aux attentes, elle, de 3,4% sur un an. Et sacrée résilience de cette économie américaine, ça pourrait véritablement plaider pour un statu quo monétaire de la Fed. Résultat, les taux américains se tendent et ça complique cette semaine boursière parce que le S&P 500 sort de 9 semaines de hausse. S'il termine cette nouvelle semaine sur un nouveau sol positif, ça ferait 10 semaines de hausse. Ce serait la meilleure série du S&P depuis 1985. Mais avec la baisse du jour, c'est pas gagné là, cette 10e semaine de hausse d'affilée. On va en parler aussi. Et un maximum d'idées de valeur pour la suite, c'est le portefeuille idéal à suivre à partir de 17h35. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché, BFM Business. Alors au cœur de toute l'actualité économique, d'abord sachez que Sophie Binet est reconduite à la tête de la CGT. Elle entend faire peser son syndicat dans le débat présidentiel. Sophie Binet a noté à l'agenda, la CGT prévoit une grève des cheminots mercredi prochain et une semaine d'action sur les salaires à partir du 22 juin. Une centaine de maires et de parlementaires du Sud-Ouest réclament à l'État un abandon immédiat du projet de ligne grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax. Signataires d'une tribune, ils jugent le financement irréaliste. Ils défendent à la place la rénovation du réseau existant. Ce projet de ligne prévoit de relier Toulouse à Paris en 3h10 d'ici à 2030. De relier aussi, rapprocher Dax ou encore Bayonne de Paris. Et puis le groupe agroalimentaire Avril et l'État, coactionnaires d'Eurolysine depuis sa reprise en 2024, vont réinvestir entre 50 et 100 millions d'euros au capital d'Eurolysine. Eurolysine est le dernier fabricant européen de lysine, un acide aminé essentiel pour l'alimentation des animaux d'élevage, symbole de la souveraineté agroalimentaire et agro-industrielle française. Son usine de 360 salariés est la seule en Europe à assurer ses productions, mais souffre de la concurrence chinoise, plus d'expertise d'ailleurs tout à l'heure à l'issue de BFM Bourse avec des experts et des experts sans frontières. Ça, c'est chaque vendredi de 18h à 19h. D'ici là, ouais, c'est BFM Bourse, on est à vos côtés. On joue dans votre camp, promis, pour encore quasiment 2 heures.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Antoine, donc, c'est une séance compliquée à Wall Street alors qu'en Europe, on est tranquille cet après-midi.
On est sur la ligne de flottaison, plus 0,01% pour le CAC 40. Mais enfin, on surperforme quand même largement l'Eurostock 50 qui lui perd 0,49%, moins 0,5% pour le DAX à Francfort. On a Madrid qui est sur la hausse de 0,49%. On a une nette surperformance depuis le début de journée. Mais alors attention, l'Euronext Tech Leaders, lui, il perd 1,6% en raison de prise de profit continue et ça fait 2 jours que ça dure. Sur le secteur des semi-conducteurs, on le voit bien, ST Microelectronics, moins 5,4% à 63,10. On a Soitec aussi, moins 4,7% à 149,15. Parmi les autres titres qui sont vendus, ceux liés à l'intelligence artificielle comme Schneider Electric, qui recule de 3,4% à 272,30 €. Non, on arrive à surperformer légèrement grâce à nos secteurs plus traditionnels, un petit peu comme hier. Sanofi plus 2, 77,97. Le luxe qui se réveille enfin. Hermès plus 2, 15. 1616,50 €. La distribution, Carrefour plus 2, 16,33 €. Et Pernod Ricard signe la plus forte hausse du CAC à plus 2,8%, 62,86 €.
Pierre-David Quenu nous rejoint pour GSD Gestion. Bonjour Pierre-David, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Un mot d'Air France-KLM aussi qui recule d'1,2% cet après-midi. Barclays abaisse sa recommandation. En fait, Barclays pense que les parts de marché que gagne Air France-KLM face à la guerre en Iran, les parts de marché que Air France, Lufthansa, Lufthansa, beaucoup de compagnies européennes reprennent à Emirates, à Qatar Airways, et ces parts de marché, on les gardera pas. Et Air France KLM n'arrivera pas à les garder dans la durée. C'est le point de vue de Barclays. Résultat, le titre est sanctionné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut accompagner la baisse d'Air France aujourd'hui en bourse?
Oh bah Air France, la compagnie, on attendrait plutôt qu'elle soit un peu plus basse pour essayer de la prendre, parce que Air France c'est quand même une histoire très compliquée avec les marchés. Ceci étant, effectivement, elle prend part de marché aujourd'hui. Après, tout l'enjeu est de pouvoir la conserver. Alors, Air France a indéniablement des points extrêmement forts, hein, comme la montée en gamme des cabines premium, le dynamisme transatlantique, le développement de Transavia sur la partie Europe. Donc, elle fait quand même beaucoup de choses pour améliorer son histoire et reprendre le cours de son histoire sur les marchés qui ne l'aiment pas beaucoup depuis des années. Donc elle est à moins 3 depuis le début de l'année, alors qu'effectivement d'un point de vue commercial elle a des opportunités, même si c'est ponctuel. Donc oui, on peut y aller, mais c'est vraiment du ce qu'on appelle du trading, oui. Hein, c'est voilà, on l'achète et quand on a fait son gain, ben on sort.
Là, sur un mois, le titre Air France KLM gagne 19%, hein, mine de rien, avec cette guerre au Moyen-Orient, qui certes a fait monter les cours du pétrole, mais ouvre aussi de nouvelles parts de marché à des groupes comme Air France, au détriment des compagnies du Golfe. Mais ces parts de marché nouvelles, Air France aura du mal à les conserver. C'est le point de vue de Barclays, qui dégrade son opinion. Le titre perd 1,2% aujourd'hui. Cette semaine aura été marquée à nouveau par la flambée de plein de valeurs tech, même si là, on termine sur une petite respiration dans la tech. Est-ce qu'il y a une valeur tech, vous trouvez en Europe, plus prometteuse que les autres pour la suite, vous, Pierre-David?
Oui, alors nous on aime bien chez GSD, on aime bien SAP. Alors on l'a aimé longtemps et puis on en était sorti parce qu'elle était très haute. Et puis là depuis quelques mois, elle souffre. De même depuis le début de l'année, elle est en forte baisse, hein, puisqu'on est à moins 20% depuis le début de l'année. Alors que nous on pense que la stratégie de SAP qui consiste à transformer son ERP, hein, qui est le logiciel de gestion de ses plateformes, en une plateforme intelligente pilotée par les données de l'IA. On pense que c'est vraiment une excellente idée, sachant que SAP a malgré tout des clients dans tous les secteurs, hein, que ça soit le domaine bancaire, industriel, enfin voilà, il y a une très large palette de clients, et donc si elle arrive à faire cette transformation qui pour nous est une évidence, on peut retrouver un SAP qui va retrouver des couleurs et qui a une grosse opportunité, plus qu'une menace, avec l'arrivée de l'IA si elle sait le maîtriser. Et on a pas de doute quand on voit comment les choses évoluent chez SAP.
SAP en petite baisse cet après-midi, mais après une super hausse hier, moins 0,7% aujourd'hui SAP. Mais c'est vrai que toute la tech respire, là, reprend des bénéfices. ST Microelectronics à Paris est lanterne rouge du CAC aujourd'hui, moins 5. Schneider Electric aussi recule de 3,5%. Alors on a pas mal de questions d'auditeurs cette semaine sur Median. Là, on arrive dans l'univers de la santé et les nouvelles solutions pour lutter contre les cancers. Median a annoncé une levée de fonds et beaucoup d'auditeurs nous demandent s'il y a un nouveau potentiel qui se dégage en mettant, c'est la promesse de Median, l'IA au service de la lutte contre le cancer. Comment vous regardez cette valeur, vous, Pierre-David?
Alors, c'est toujours très compliqué, hein, ces valeurs-là, parce qu'en fait, émotionnellement, on a envie que ça fonctionne, parce qu'évidemment, ces avancées, ben c'est génial, hein, pas d'un point de vue sociétal, et on a envie que ça fonctionne. Le financier a plus de doutes, parce que c'est toujours très difficile à mettre en place, c'est souvent très long, et souvent ça n'aboutit pas. Donc on a envie d'y croire, donc on va surveiller, on va voir les avancées pas à pas, et on serait heureux d'accompagner, effectivement, d'investir pour nos clients. Mais voilà, c'est quand même un secteur extrêmement volatile et où c'est un peu qui tout double.
Oui, c'est sûr, c'est qui tout double. Il y a l'IA qui débarque. Alors on voit aux États-Unis, par exemple, le segment biotech qui surperforme, hein, qui cartonne maintenant sur un an, avec, c'est vrai, de plus en plus l'intégration de la tech au cœur. Alors, c'est consubstantiel hein, pour les biotech, mais de plus en plus de tech avancée et d'IA aussi au service de la santé. Le segment santé fait partie de ces segments de marché dont beaucoup nous parlent pour voilà essayer de trouver d'autres idées que la pure tech pour bénéficier de l'IA. La santé, grâce aux apports de l'IA, pourrait en bourse trouver une nouvelle jeunesse. Alors, ça fait un moment qu'on l'entend, ça ne se vérifie pas toujours dans les performances, mais voilà, beaucoup d'analystes restent très positifs sur ce segment de la santé, pourquoi pas pour investir, mais par le côté, hein, par le bord, par les marges, sur les bienfaits de l'intelligence artificielle. Une autre question d'auditeur, c'est Léon Dumanil qui nous a écrit sur le Félix BFM Bourse. Il nous demande, c'est une valeur très suivie par les particuliers, ce que vous pensez du potentiel de Française des Jeux, FDJ United, Pierre David. On change complètement de sujet, de thème. Oui.
On change de secteur, effectivement. Donc là, oui, très positif sur FDJ, parce que tout simplement, elle a un quasi-monopole qui est extrêmement solide. Elle a beaucoup d'avantages. Elle a un très fort dividende. Elle se paye pas cher. Donc, effectivement, pour le coup, c'est une valeur qui a une forte possibilité en rendement et en revalorisation. Donc, elle joue sur tous les tableaux. Donc, en fait, on est extrêmement positif. Le seul petit point d'inquiétude, mais qui sont toujours les mêmes quand on est en Europe et particulièrement en France, c'est la fiscalité, la réglementation. Voilà, c'est les seuls points négatifs qui pourraient faire que le titre soit sanctionné. Mais voilà, pas cher, gros dividende et un quasi-monopole, il faut en avoir.
Merci Pierre-David, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Et vous vous mouillerez avec Julien Marion qui sera aussi là. Ce sera le match, le fight de cette fin d'émission tout à l'heure à 17h35. SpaceX, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Vous, je crois que vous êtes plutôt prudent, hein, c'est ça Pierre-David, sur SpaceX. Et Julien, soutiendra l'avis inverse. Ce sera très intéressant à suivre, le fight en fin d'émission tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre-David. Et à propos de SpaceX, alors c'est dans une semaine, hein, l'introduction en bourse. On vous rappelle que l'indice S&P n'intégrera pas SpaceX en mode express, contrairement au Nasdaq. Oui, il faudra que SpaceX attende au moins un an pour intégrer l'indice S&P, alors qu'il intégrera seulement au bout de 15 jours le Nasdaq. Là, on a deux stratégies indicielles très différentes. Et à propos de cette introduction en bourse, il y a des stratégies commerciales aussi intéressantes hein, de la part des différentes plateformes d'investissement. Par exemple, Robinhood a annoncé qu'il n'imposerait aucun solde minimum à ses clients pour acheter SpaceX. Fidelity, en revanche, n'ouvre SpaceX qu'à ses clients qui ont un solde d'au moins 2 000 $. Schwab va plus loin en imposant un minimum de 100 000 $ sur votre compte de trading individuel pour participer à l'IPO. Il faut que vous ayez 100 000 $ sur votre... Donc il y a une forme de recherche de sécurité quand même hein, vis-à-vis de l'investissement dans SpaceX. E-Trade aussi a communiqué et indique avoir mis en place alors un processus spécial pour ses clients qui détiennent déjà des actions Tesla depuis au moins 10 ans. Eh bien ces clients-là de E-Trade auront un accès privilégié à l'IPO avec une allocation d'actions supplémentaires en SpaceX. Voilà ce qu'annonce E-Trade. Chacun sa stratégie commerciale et marketing autour de ce qui va se jouer vendredi prochain, l'introduction de SpaceX. Milestone pour toute l'industrie financière. Arthur Bernasconi, désolé. Je vous ai confondu avec Silvio, là, pour le coup. Arthur Bernasconi. Ça va, Arthur?
Bonjour, Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Analyse gérant pour Gay-Lussac Gestion. Vous venez nous livrer, justement, une idée de valeur en Italie. Vous nous emmenez à la bourse de Milan. Vous avez 2 minutes 30. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt, Guillaume.
Vous êtes positif sur... Alors, un acteur italien de la joaillerie qu'on ne connaissait pas forcément. Le titre FOP ou FOPE, je ne sais pas comment il faut le dire, Arthur.
FOP à la française ou FOPE à l'italien. Oui, Guillaume. Alors, FOP, c'est une belle valeur de niche, comme on les apprécie chez Gay-Lussac, et qu'on détient depuis maintenant 3 ans dans nos fonds. Alors, FOP, c'est une valeur italienne familiale, quasi centenaire, et surtout très bien gérée, qui conçoit et qui fabrique des bijoux en or, avec une identité très reconnaissable, notamment autour de ses bracelets extensibles. La société est encore taille raisonnable, avec 94 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, mais elle dispose déjà d'une vraie présence mondiale dans plus de 700 points de vente et près de 90% de l'activité hors d'Italie. C'est une société, Guillaume, qui a fait croître son chiffre d'affaires de 3 fois en 10 ans et son résultat de près de 10 fois. Ce qu'on apprécie surtout, c'est que cette croissance est à la fois portée par les prix, par les volumes et par l'international, puisqu'en 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 27%, avec de bonnes dynamiques aux États-Unis et dans plusieurs marchés asiatiques. Le groupe continue d'ouvrir des corners qui nécessitent très peu d'investissement. Et à côté de ça, quelques boutiques monomarques dans des villes très dynamiques comme Tokyo ou Kuala Lumpur. Le groupe a margé à près de 22% EBITDA en 2025 et a terminé l'année avec 10 millions d'euros de trésorerie nette.
Oui, mais le luxe a été chahuté en bourse hein, depuis 2 ans. Est-ce que FOP ne risque pas de subir le même sort que les grands acteurs du secteur plus connus?
Ce qu'on peut dire, Guillaume, c'est que FOP n'a pas le profil d'un grand groupe de luxe mature. C'est encore une société de croissance avec une marque qui se construit à l'international et surtout à une valorisation abordable selon nous, malgré la hausse, puisque le titre se traite autour de 11 fois le résultat opérationnel. Et le plan 2029 laisse entrevoir de très belles perspectives de croissance en visant près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tout ça crée même, selon nous, plutôt du potentiel de rattrapage progressif vers la valorisation de ses camarades. Le risque principal, bien sûr, reste la tenue de la consommation haut de gamme et la capacité à gérer les marges. Mais avec un carnet de commandes bien orienté, des couvertures sur l'or et une forte croissance aux États-Unis et en Asie, on reste confiant sur FOP.
Merci beaucoup Arthur Bernasconi donc sur cette valeur cotée à la Bourse de Milan. FOP, un joaillier italien dont on n'avait pas beaucoup parlé hein, jusqu'ici, c'est vrai, c'est toujours intéressant de découvrir toutes ces pépites. La maille fine des entreprises à l'échelle européenne, et il y en a beaucoup, hein, des entreprises de taille petite ou intermédiaire là-bas, particulièrement en Italie. Merci beaucoup Arthur de nous avoir accompagnés cet après-midi. Le CAC est en toute petite baisse de 0,04%. Tout à l'heure dans USA Today, on évoquait Anthropic, parce qu'Anthropic appelle les principales laboratoires d'IA à envisager de ralentir leur rythme de recherche. Anthropic suggère que les IA progressent si vite qu'elles pourraient bientôt être capables de s'améliorer elles-mêmes sans intervention humaine, ce qui poserait un problème sociétal. Alerte Anthropic. John Plassard nous en parlait, alors qu'Anthropic compte coter en bourse bientôt. Est-ce qu'on peut investir dans une boîte qui mise sur le ralentissement, ou en tout cas qui appelle ses concurrents à ralentir? C'est une question qu'on a posée à John. USA Today, le nom de cette séquence disponible en replay.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Celui qui ne ralentit pas, c'est le rapport sur l'emploi, le marché de l'emploi américain, qui même réaccélère. Là, au mois de mai, on a eu 2 fois plus de créations de postes qu'attendu aux États-Unis, malgré les doutes et l'impact de la guerre en Iran. 2 fois plus de créations de postes que ce qu'on attendait. Patrice nous rejoint, Patrice Gautry, l'UBP. Bonjour Patrice, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Bon, comment expliquez-vous cette réaccélération du marché de l'emploi au mois de mai aux États-Unis, Patrice?
Oui, donc on a eu des créations très très fortes, 172 000 après 179 000, et les trois derniers mois donc s'établissent, puisque le mois précédent a été aussi révisé à la hausse, à 188 000. Il y a une accélération qui est assez nette dans le secteur manufacturier, qui est alliée effectivement avec le surcroît d'activité, on l'avait vu dans les PMI, et puis au sein des services, donc là on a créé encore beaucoup d'emplois, mais un petit peu en ralentissement par rapport au mois précédent, et il y a beaucoup de volatilité dans les services, puisque en fait ça a été une accélération dans le secteur des loisirs et le secteur gouvernemental, alors qu'il y a un ralentissement et un petit peu moins de création, dans le secteur de l'éducation et de la santé, alors que ce secteur-là avait été très fort les mois précédents. Et par contre, il y a un renversement de tendance dans le secteur du commerce et des transports, qui traditionnellement était plutôt orienté à la hausse. Là, il y a eu une contraction. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude effectivement sur l'emploi. L'activité américaine est au beau fixe. Elle crée des emplois. Par contre, il y a beaucoup de volatilité au sein des secteurs, parmi les secteurs, ce qui veut dire que ces chiffres-là ne sont peut-être pas, durables et montrent quand même, des variations d'activité assez fortes d'un mois ou d'un trimestre à l'autre.
Patrice, maintenant, ça va être un petit peu compliqué pour le nouveau patron de la Fed de dire qu'il faut baisser les taux.
Ah oui, tout à fait, oui. Alors là, il n'y a pas d'inquiétude, effectivement, puisque la Fed nous avait dit précédemment qu'elle était inquiète des deux côtés de l'équation. Est-ce qu'il y a un risque sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a un risque sur l'inflation? Le risque sur le marché du travail est maintenant écarté, mais néanmoins, le marché du travail n'est pas en surchauffe. Ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, malgré la bonne surprise de ces fortes créations d'emplois. Le taux de chômage reste 4,3%. Les salaires ont même légèrement réduit, 3,4% sur un an. Donc, effectivement, l'inquiétude et la concentration du travail de la Fed, c'est ce qui se passe du côté de l'inflation. Pour l'instant, effectivement, on a, des pressions inflationnistes qui existent, bien entendu, avec les prix d'énergie, qui sont encore relativement limitées des prix cœur, mais bien entendu, il faudra une résolution rapide de ce conflit au Moyen-Orient pour avoir une vraie détente durable des prix du baril, même si ceux-ci sont déjà inférieurs à 100 dollars.
Alors justement, l'impact de ces prix du baril, là, on va changer de rive sur l'Atlantique et revenir ici en Europe après le super rapport sur l'emploi américain. Dans une semaine ici en Europe, tout le monde attend une hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, avec quand même des arguments pour certains. D'abord, c'est vrai, les prix qui augmentent un petit peu et la crainte d'une boucle prix-salaire. Hier, dernière, Laurent Martin, l'un de nos invités dans BFM Bourse, nous disait qu'on pourrait effectivement avoir, par exemple en France, une boucle prix-revenu, parce que les retraites en France sont bel et bien indexées à l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, les retraites, les revenus des retraités aussi augmentent. Le SMIC aussi est indexé à l'inflation. Est-ce que de ce point de vue, on peut effectivement craindre une boucle prix-revenu qui justifierait cette hausse de taux, Patrice ?
Alors, la hausse de taux se justifie par rapport à simplement la dérive de l'inflation constatée. C'est-à-dire, on est à plus de 3%, une inflation cœur qui est à 2,5% avec des taux directeurs qui étaient à 2%. Alors, malheureusement, en fin d'année dernière et en début de cette année, tous les compteurs étaient à 2%, y compris l'inflation, ce qui était parfait. Mais le choc, effectivement, de la guerre au Moyen-Orient a amené cette dérive de l'inflation. Donc, malheureusement, les taux courts par rapport à l'objectif d'inflation qui est écrit dans les statuts de la BCE ne peuvent pas rester à 2% et une hausse de 25 points de base et à peu près, effectivement, avec quasiment 100% de probabilité. L'économie française a des mécanismes d'indexation, mais ces des indexations sont partielles, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'intégralité des hausses de prix qui se reflète dans les pensions et dans la hausse du SMIC, et puis ça intervient avec retard. Donc, il y a une période dans laquelle, effectivement, il y a une relative perte de pouvoir d'achat. Moi, je suis plus inquiet, pas par cette indexation systématique, et l'indexation a été forte quand l'inflation est très très forte. Là, on est avec une inflation qui est moins forte quand même qu'en 2022, je suis plus inquiet par les anticipations d'inflation. Et regardez les anticipations d'inflation sur les marchés, pour l'instant, elles sont relativement calmes. Mais quand on regarde effectivement les prix attendus dans les indicateurs, par exemple des PMI ou dans les indicateurs des ménages, il peut y avoir des dérives. Et ces dérives peuvent être, je dirais, limitées grâce à la communication de la BCE. Donc je ne parlerai pas encore de 2 ou 3 hausses de taux comme le price, les marchés monétaires, pour la BCE, mais une bonne communication, c'est-à-dire une communication un petit peu qui réaffirme cet engagement de 2% d'inflation, avec en l'espoir un petit peu d'aide du côté du Moyen-Orient où on aura enfin peut-être un accord et une détente encore plus durable des prix du baril, devrait limiter, je dirais, les hausses de taux et notamment les hausses de taux de la BCE. Et donc, à ce moment-là, on aura moins d'impact sur l'activité parce que là, ce serait l'élément négatif.
Merci. Patrice Gautry avec nous depuis l'Union bancaire privée. Jeudi prochain aussi, on se mettra en mode spécial BCE, bien sûr, dans BFM Bourse, avec cette première hausse de taux attendue depuis 2023, mine de rien. Le CAC est en petite baisse cet après-midi. Wall Street recule davantage après ce bon rapport sur l'emploi qui fait remonter les taux US. Résultat, le Nasdaq perd 1,6% après avoir enchaîné les hausses, hein, quand même. Moins 1,6% aujourd'hui de Nasdaq. Le S&P, lui, perd 1%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
D'ailleurs, sommes-nous dans une bulle ? L'intelligence artificielle en bourse est-elle en bulle ? François Gobron nous rejoint, il va nous livrer sa vision, analyse, gérant pour Generali Investments. Bonjour François.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Tout ça en bourse n'est-il qu'une bulle ?
Alors, c'est une question difficile et périlleuse hein, pour avoir une réponse claire. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les valorisations des semi-conducteurs sont très élevées. Des deux côtés de l'Atlantique, hein, Nvidia vaut 31 fois l'EBITDA, ASML encore pire, hein, c'est 44 fois l'EBITDA de l'année passée. Donc on est sur des valorisations extrêmement élevées et pour des raisons qui sont qu'on peut expliquer. Mais après il y a ce problème de monétiser l'IA et de justifier tous ces investissements massifs qui sont faits dans l'IA.
Oui, on va en parler dans le détail. Il y a aussi, on va dire, l'amplification des mouvements par les ETF, par la gestion passive, qui en partie explique ce mouvement haussier qu'on a connu depuis quelques semaines.
Tout à fait. Les ETF semi-conducteurs, si je prends uniquement les ETF qui sont sur le secteur des semi-conducteurs, j'oublie les ETF qui sont exposés également aux semi-conducteurs, les ETF plus pays, par exemple un ETF sur les Pays-Bas, il va y avoir beaucoup d'ASML dedans, mais les ETF semi-conducteurs, c'est 200 milliards d'encours sous gestion aujourd'hui, et c'est 6 milliards tous les mois d'inflow depuis le début de l'année.
Bon, pour le moment, on a l'impression que le problème de la valorisation se pose, on va dire, relativement peu, dans le sens où les anticipations de bénéfices sont recoupées par les bénéfices réels. Donc, c'est des courbes qui se croisent. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a une forme de côté raisonnable dans ce qui peut paraître pas raisonnable au premier abord ?
Oui, tout à fait. C'est le point qui explique peut-être qu'on n'est pas en bulle. Hein. Moi, mon point de vue personnellement, c'est qu'on est en bulle. Je me trompe peut-être, mais effectivement, on a des résultats qui suivent, un petit peu entraînants, mais qui suivent à peu près les hausses des valorisations. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'inflows, beaucoup d'argent passif qui fait monter les semi-conducteurs. Et je vois également que sur la partie hedge fund, Vous savez, ces fonds qui sont longs d'un côté et short de l'autre. Habituellement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient longs sur la valeur favorite du secteur. Je dis ASML un peu au hasard. C'est assez classique. Et court sur la partie la moins aimée du secteur. ST Microelectronics, encore une fois, c'est complètement au hasard. Aujourd'hui, ce qu'ils font, comme les ETF emmènent tout à la hausse, et ben en fait, ils vont pas shorter ST Micro, ils vont aller shorter quelque chose d'autre. Les logiciels, les SS2I, qui sont des secteurs connexes aux semi-conducteurs, mais qui sont vus comme des perdants de l'IA.
Et alors, vous êtes gérant tech à la base, François, plutôt gérant tech
Gérant généraliste, mais ingénieur, et oui, j'aime beaucoup.
Oui, et donc vous aimez la tech, et même si vous aimez la tech, vous dites, de votre point de vue, à titre personnel, vous pensez que c'est une bulle. Voilà. Vous n'êtes pas un anti-tech, parce que dans l'univers des gérants, il y a des anti-tech où il y a des gens qui n'ont aucune appétence, etc. Vous avez une appétence, vous avez la fibre tech en vous, et vous dites, là, attention, il y a des signaux de bulle. Mais on pourrait aussi vous rétorquer, un, que les valorisations ne sont pas toutes extravagantes. Les 7 magnifiques font plus grand-chose, hein, d'ailleurs, on parle beaucoup des semi-conducteurs et tout, mais les 7 magnifiques ont arrêté de flamber, la plupart d'entre elles. Et deuxièmement, qu'on voit aussi certaines valeurs tech qui avaient été survendues remonter. Alors parfois, les rebonds sont spectaculaires, Dell, plus 40% en deux jours, etc. Mais les chutes avaient été tout aussi, voire encore plus spectaculaires. Est-ce que certaines hausses en ce moment ne viennent pas corriger d'autres excès qui, eux, étaient à la baisse?
C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a eu, en fait, des excès à la hausse comme à la baisse, avec des secteurs qui ont été massacrés complètement. Et quand on fait une valorisation fondamentale par les discounted cash flow, en fait, la valorisation, elle est faite sur deux parties. Une partie qui est l'horizon visible, combien de cash flow la société va générer sur les 10 prochaines années, mettons. Et après, une valeur à l'infini où on extrapole à l'infini. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les valeurs semi, 80-90% de la valeur est cette croissance à l'infini, et sur cette valeur terminale à l'infini. Et sur les SS2I aujourd'hui, c'est plutôt proche de zéro. Donc, il va y avoir probablement une renormalisation de ces valeurs terminales.
D'accord. Donc, c'est peut-être là qu'il faut aller chercher les prochains potentiels. On a vu Dassault Systèmes qui était vraiment cloué au pilori, remonté fortement. C'est assez impressionnant depuis maintenant quelques semaines. Capgemini aussi. Quand vous voyez ces rebonds-là, vous vous dites, ouais, ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt là qu'il faut désormais placer son argent dans la tech.
Oui, tout à fait. En fait, sur la partie logicielle, je suis absolument convaincu que des sociétés comme SAP ou Dassault Systèmes, et plus généralement tous les logiciels qui sont, on va dire, horizontaux, pas les verticaux qui peuvent se faire attaquer assez facilement, on l'a vu, par l'IA, mais le logiciel horizontaux, c'est des choses qui sont très imbriquées dans tous les départements d'une société, et ça va être très difficile pour l'IA d'aller les déloger. Donc ils ont une sorte de barrière de protection qui est assez forte.
Oui. Il y a comme ça des valeurs, sans aller jusqu'à la recommandation, mais dont vous vous dites, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, ces valeurs-là, je les aime bien et je les garde, voire pourquoi pas, je les renforcerai prochainement.
Oui, alors dans les logiciels SAP, par exemple, c'est vrai que c'est une société qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, ça se paye 23 fois les résultats. C'est relativement bon marché, avec de la visibilité. Enfin, c'est vraiment une très belle société. Dans le logiciel Dassault Systèmes également, bon, qui a des petits problèmes avec Medidata, mais qui est aussi une société, une très très belle société, une de très belle qualité. Et puis après, on peut aller chercher dans les SS2I. J'étais un petit peu réticent sur les SS2I, et puis finalement, on a eu pas mal de choses qui sont sorties récemment. Donc il y a Capgemini qui a fait un Capital Market Day récemment, où ils ont dit, l'IA, nous, on voit ça comme quelque chose qui va être disruptif, ça c'est sûr. Mais on a les moyens de se défendre et on va globalement générer 6 milliards de cash flow d'ici 2030, ça fait 2 milliards par an. Vu la valorisation, ça fait un free cash flow de 11%. C'est quasiment du jamais vu. Ça montre que la valeur est relativement peu chère. Et puis on a Wavestone, qui est un cabinet de conseil, qui a sorti aussi quelque chose de très intéressant. Où alors eux, c'est la première fois que je vois ça. Ils ont vraiment quantifié l'impact IA. Donc c'est en fait pour eux 15% de leur chiffre d'affaires qui est à risque. Faut lire qui va disparaître, et 20% d'économie, ce qui veut dire qu'ils vont rendre la moitié aux clients. Hein, donc c'est en fait 25% du chiffre d'affaires qu'il va falloir remplacer au cours des prochaines années, en faisant du M&A et puis en se repositionnant vers l'IA. Donc en fait, on se rend compte que pour des sociétés comme ça, il y a un impact assez fort de l'IA, mais finalement que c'est gérable.
Oui, c'est très rassurant. C'est ça, ils montrent l'ampleur de l'impact de l'IA à venir sur leur business, mais aussi une feuille de route pour arriver à s'en sortir par le haut et continuer de rester à la surface. Là.
Exactement.
C'est ça qui est très, très intéressant dans la publication de Wavestone effectuée. C'était hier, hein, je crois, oui. Ça. François, merci beaucoup. Alors, dans quelques jours, SpaceX va s'introduire, a priori, vendredi prochain. Regardez, la valorisation de SpaceX, ce sera 94 fois le chiffre d'affaires. 94 fois le chiffre d'affaires, alors qu'Amazon, quand il s'est introduit à 3 fois le chiffre d'affaires. Meta, 27 fois le chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui, Nvidia, 20 fois le chiffre d'affaires. Ça vaut 20 fois.
Voilà. Oui, bon. Je vous demande pas si vous avez envie d'y aller, mais on l'a compris. Merci beaucoup, François Gobron, analyste gérant pour General Investments. Alors, on en reparlera de SpaceX, bien sûr. Ça tombe bien. TechStock, c'est à suivre dans un instant. On va vous emmener jusque dans les confins de la tech pour vous faire aussi découvrir des pépites que vous ne soupçonniez pas. C'est la mission de TechStock chaque vendredi. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse. Tech Stocks. Guillaume Sommerer.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech. Pendant 27 minutes, on va vous apporter des idées de pépites et on tentera de faire de vous des insiders. Nos gouttes de la tech cette semaine, ils sont là. Stéphane Houry, analyste tech pour Odo BHF. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, ainsi qu'Axel Cabrol. Bonjour Axel.
Bonjour, ravi d'être là.
Directeur général de Tobin, welcome on board. Chaque vendredi, à cette heure-ci, oui, BFM Bourse prend de l'avance sur la tech boursière grâce, messieurs, à votre expertise. Dans un instant, vous nous livrerez vos pépites méconnues, mais d'abord, dans l'actu. Ça, c'est pour ceux qui ont raté la semaine. Alors, je préviens nos auditeurs et téléspectateurs, on va pas trop parler de SpaceX cette fois-ci. Pourquoi ? Parce qu'on en parle beaucoup aussi dans le reste de l'émission. Donc, vous pouvez retrouver nos podcasts, nos replays. Et parce que, alors, la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on en parlera tout le temps. Donc, dans la semaine, là, qu'est-ce qui vous a, à part SpaceX, l'un et l'autre, le plus marqué ou bluffé dans la tech ? Stéphane.
Alors, moi, je commencerai par STMicroelectronics, qui est un sujet que j'aime bien et que je pousse depuis pas mal de temps, puisqu'ils ont, juste avant le début d'une conférence, donc ils savaient qu'ils devaient communiquer auprès des investisseurs, ils ont mis à jour leur prévision de chiffre d'affaires dans les data centers. Alors, dans les data centers, c'est surtout de la photonique, un peu de microcontrôleurs, mais beaucoup, beaucoup de photonique, et ils ont confirmé qu'ils feraient 1 milliard de chiffre d'affaires cette année, et l'année prochaine 2 milliards. Et ils ont confirmé également qu'ils avaient globalement sécurisé les capacités de production. C'était la condition qui fallait pour confirmer ce chiffre. Alors c'est un chiffre qu'ils avaient plus ou moins donné déjà, mais il y avait une incertitude sur leur capacité à monter en puissance assez rapidement. Et sur 2027, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit 2 milliards, ils ont dit 2 milliards au moins. Donc, ils se donnent une sorte de marge de manœuvre pour faire plus l'année prochaine. Et ça va très vite. L'année dernière, c'était 350 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Oui, en fait, STMicroelectronics est en train de changer de profil en bourse. On peut carrément le voir comme ça.
Hein. Oui, complètement. Bah, en fait, il y a deux opportunités. Alors, on a dit qu'on parlait pas de SpaceX, mais
on peut.
La première opportunité, c'est les data centers, la photonique. C'est 1 milliard cette année, 2 milliards l'année prochaine. Et il y a aussi les satellites à basse orbite. Et là-dessus, ils font déjà 600 millions de dollars avec SpaceX Starlink. Ils vont faire à peu près 1 milliard cette année, et ça va continuer derrière parce qu'ils ont des nouveaux clients, Amazon, Lio, et puis ils ont aussi des Chinois, donc c'est quelque chose qui va représenter plusieurs milliards de dollars, qui, additionné au chiffre d'affaires data center, va clairement changer le profil du groupe. On pense que ce type de revenu va représenter environ 25 à 30% du chiffre d'affaires total du groupe, le reste étant de l'automobile, de l'industrie, et puis des smartphones, oui, avec Apple.
25 à 30%, c'est vraiment énorme.
En 2028.
Oui, dans 2 ans, an et demi, ça va très vite. Bon, les choses sont en train de s'accélérer. STM vient de vivre une phase magnifique, même si aujourd'hui c'est la lanterne rouge du CAC. Il faut bien que ça respire de temps en temps. Mais il y a eu Broadcom aussi quand même cette semaine qui est passé par là et qui a jeté un froid. Le titre a beaucoup souffert à Wall Street. Il perd encore Broadcom aujourd'hui, 4% en ce moment sur le marché américain, alors que la publication était bien, les prévisions aussi. Mais là, le marché en attendait plus. Il y a eu un effet Broadcom négatif pour la tech cette semaine.
De manière générale, c'est pas une mauvaise idée de souffler un petit peu, que le marché est monté en ligne droite, mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec Broadcom, c'est pas un drame non plus. Ils ont guidé sur 16 milliards de revenus IA au Q3. Le consensus attendait 17 milliards. Bon, c'est 1 milliard sur un trimestre. Et puis, ils n'ont pas relevé leur guidance sur 2027, alors qu'effectivement, eux aussi avaient confirmé avoir la capacité de production. Donc, voilà, c'est pas d'upgrade de prévision et égale prise de profit. Je suis pas sûr que ce soit que Broadcom qui explique la phase actuelle de prise de profit, mais en tout cas, ça l'a enclenché.
Voilà, ce que vous avez repéré, ce qui vous a le plus bluffé, vous, Stéphane, cette semaine dans la tech. Axel, vous suivez la tech, mais alors par un autre prisme, le prisme crypto en l'occurrence, mais il se trouve qu'il y a des valeurs cotées sur le marché liées au crypto.
Absolument.
Qu'est-ce qui a fait sensation cette semaine? Qu'est-ce qui explique peut-être aussi en partie la chute du Bitcoin? Je dis la chute, le plongeon, on est à 60 300 dollars en ce moment, c'est-à-dire qu'en 10 jours, le Bitcoin a perdu 18 000 dollars.
25%, ouais, c'est très impressionnant. Je voulais revenir là-dessus parce que effectivement c'est un mouvement brutal. Alors à l'échelle de ce que c'est que Bitcoin, on va dire, ça fait partie du jeu. On a déjà vécu ce genre de choses. Mais je pense que ça vaut la peine de remettre un peu en perspective avec ce qui s'est passé. Et le déclencheur, alors le Broadcom du Bitcoin, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière en début de semaine. Et c'est lié à Strategy. Donc Strategy, c'est la plus grosse Bitcoin Treasury Company mondiale. C'est-à-dire une entreprise qui accumule du Bitcoin à son actif et qui détient aujourd'hui à peu près 4,5% de l'ensemble du supply. Ce qui se passe, c'est que Strategy a innové l'an dernier, a créé de nouveaux instruments qu'ils appellent du digital credit, qui en fait n'est ni vraiment digital ni vraiment du crédit, puisque ce sont des actions de préférence. Mais l'idée, c'est vraiment de se positionner comme une entreprise qui, un peu comme une banque ou une assurance, transforme le profil de risque du Bitcoin, qui peut être très impressionnant, gros rendement à long terme, mais aussi un risque à court terme qui est très très élevé, en des instruments qui ont un profil de risque beaucoup plus faible et qui versent un revenu régulier.
Excusez-moi, est-ce que vous pensez que ce signal de vente, qui était quand même, c'était 34 bitcoins, c'était pas
32, mais c'est rien du tout.
Et ça s'était déjà passé il y a 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Dans un contexte très différent.
Absolument.
Est-ce que vous pensez que, c'était le signal pour que tout le monde vende? Ça paraît.
Alors moi, je le pense pas du tout. Je pense que c'est une incompréhension complète. Je suis pas convaincu qu'ils aient été très clairs dans leur communication et dans leurs intentions, stratégie. Ah. Je pense qu'ils ont raté quelque chose. Je pense que quand on veut délivrer de la prévisibilité sur certains instruments, il faut mieux expliquer avant de faire. Et ça a été un symbole qui tombait. Donc je pense que si, clairement, ça a été un signal, parce que stratégie est très regardée, que le marché n'a pas compris. Maintenant, après, effectivement, il y a un mécanisme de liquidation qui s'est mis en place. C'est classique sur Bitcoin. Ce qui fait que les 10% se sont transformés en 25% assez rapidement. Pour autant, moi, je pense que la thèse sur Bitcoin reste complètement valide à long terme, à savoir c'est un des actifs qui va résister à l'inflation. De l'inflation monétaire, on en a partout. Et ces instruments de crédit digitaux ou crédit digital sont un succès historique. Stratégie est devenue en moins de 18 mois le plus gros émetteur d'actions de préférence aux États-Unis. Ils ont levé 15 milliards de dollars. Et la volatilité sur ces instruments-là aujourd'hui, c'est moins de 5%. Donc l'histoire est loin d'être terminée. Et l'accumulation de Bitcoin par stratégie est loin d'être terminée aussi. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul.
D'accord, c'est pas parce qu'ils en ont vendu 2-3 que la promesse de mettre Bitcoin au cœur de la trésorerie est abîmée profondément. D'accord.
Pourquoi ils ont vendu 2-3? Parce qu'en fait, les agences de rating qui s'intéressent à ces instruments d'un point de vue crédit, elles veulent s'assurer que le collatéral est liquide, peut être traité. Et donc quand on leur dit « moi je ne vendrai jamais mon actif », ça leur fait peur, ça leur pose problème.
C'est ça. Il fallait montrer qu'ils étaient capables de vendre une partie de leur trésorerie pour prouver que cette trésorerie est liquide, ce qui est une condition pour intégrer le S&P 500, par exemple. Quêtes de stratégie, en l'occurrence.
Et donc, ils essayent de séduire tout ce monde institutionnel de la finance sur leur capacité à gérer du crédit, d'une certaine manière, à délivrer des volatilités faibles. Et ce faisant, je pense qu'ils ont mal expliqué ça en amont aussi.
Bon.
Ils ont cassé un tabou, voilà.
Oui. Et voilà, résultat, Bitcoin qui aura aggravé ses pertes là sur la semaine. Ça montre aussi à quel point Bitcoin dépend d'un acteur, stratégie là. On disait au début du Bitcoin, c'est hyper décentralisé face aux banques centrales, Bitcoin hyper décentralisé. On voit que certains acteurs quand même en détiennent suffisamment pour à eux seuls faire pencher le marché.
Disons qu'ils sont très regardés. Après, les 32 Bitcoin eux-mêmes n'ont pas eu d'impact, mais
ils ont
un marché, c'est un marché qui est très, comme l'ensemble des marchés, qui est très mimétique. Voilà.
Alors messieurs, ce dont on vient de parler, on parlait donc la Bitcoin, crypto, on parlait ST Microelectronics, des semi-conducteurs, de Broadcom qui ont publié cette semaine, tout ça est encore relativement mainstream. Sauf que Tech Talk, c'est vraiment le moment où on échange dans le secret de la tech. Vous nous livrez vos indiscrets. Pouvez-vous faire de nous des insiders, s'il vous plaît? Livrez-nous des secrets. Sous les radars, que tout le monde a une annonce dans la tech passée inaperçue ces derniers jours, ou une rencontre que vous avez eue, une discussion peut-être confidentielle avec un grand dirigeant de la tech ou un ingénieur comme ça, un génie. discussions confidentielles que vous n'êtes pas supposé partager, sauf avec les auditeurs de TechStock. Est-ce que c'est possible, Axel?
Ouais, moi je voulais vous parler de faire un petit pas de côté, et vous parler un petit peu macro à propos de la tech. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène complètement historique qu'on est en train de vivre sur les marchés menés par la tech? Et c'est une petite anecdote qui vient d'un échange qu'on a. Enfin, il se trouve que Tobam travaille de longue date avec des fonds de pension et des asset owners de long terme. Et dans les échanges qu'on a avec des allocataires de long terme, il ressort qu'il y a plusieurs grands risques aujourd'hui que ces gens-là ont en tête, notamment la concentration des marchés autour de la tech, mais pas que, aussi tout ce qui tourne autour de la dette publique. Et ce qui m'a très étonné, c'est qu'il y a une espèce de conflagration entre les deux, autour d'un débat, autour d'une interview que Geeta Gopinath a donnée il y a quelques jours.
Qui est Geeta Gopinath? Vous allez nous la faire découvrir. Est-ce qu'elle a dit? C'est pour ça que c'est elle qui le dit. C'est pour ça que c'est très intéressant.
Voilà, exactement. Donc c'est pas du tout n'importe qui. Donc c'est une académique, bien sûr. Elle est professeure à Harvard. Oui. Elle a beaucoup publié. C'est une macroéconomiste. Mais c'est surtout l'ancienne chief economist du FMI et l'ancienne numéro 2 du FMI. Je crois qu'elle a, depuis, elle est revenue au monde académique en.
Et qu'est-ce qu'elle dit de la solvabilité des États, alors?
Et donc, ce qu'elle dit, elle dit deux choses qui m'ont vraiment frappé. La première, c'est que la solvabilité de la dette américaine, parce qu'elle parlait des États-Unis surtout, mais je pense que ça s'applique un peu au-delà de ça, est en fait, vu les niveaux de taux qu'on a, très dépendante de ce qui va se passer sur l'IA et sur la tech. Est-ce que l'IA va délivrer ses gains de productivité ou pas? Donc j'ai trouvé le lien tout à fait frappant.
La solvabilité des États-Unis dépend en partie de la productivité de l'IA, donc.
Alors, en tout cas, s'ils restent sur les niveaux de déficit actuels, ils continuent sur leur politique actuelle. Mais oui, tout à fait. Et la deuxième chose qu'elle dit qui est très frappante, c'est que finalement, parce que nous, d'un point de vue européen, on a l'impression d'être quand même un petit peu plus vertueux que les Américains. Enfin, c'est souvent le prisme qu'on peut avoir.
Ça
on
n'a
pas l'IA, mais on a un peu plus de vertu budgétaire parfois.
Ça dépend qui. Oui. Alors, allez-y.
Ça dépend qui. Mais et donc, dans ce qu'elle expliquait, c'est que le marché actions américain est aujourd'hui très détenu par les étrangers aussi. C'est que finalement, le tiers de la capitalisation du S&P, si on prend ça comme référence, c'est détenu par les étrangers. Et évidemment, ce que les étrangers vont chercher aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'exposition à la tech et à l'IA, qui représente plus du tiers aussi du marché. Et donc voilà, sa formule, c'est en fait, nous sommes tous ensemble dans le même bateau.
Oui. Cette histoire. Et que l'IA, elle en a gros sur les épaules, hein, en l'occurrence. Elle Absolument. Tient la solvabilité américaine, d'après l'ancienne chef économiste du FMI, et aussi l'attrait des investisseurs internationaux dont dépend tant Wall Street. C'est l'IA qui porte tout ça. Intéressant ce que vous nous livrez et partagez aujourd'hui. Stéphane, à vous, dans les secrets de la tech, une conversation, un chiffre que vous avez vu, quelque chose absolument hallucinant qui, même si vous êtes un vrai spécialiste de la tech et des semi-conducteurs, vous a vous-même interpellé.
Alors, un chiffre, c'est 90%. 90% de croissance du marché des semi-conducteurs cette année. C'est ce qu'a publié l'association WSTS aujourd'hui. Notre précédente prévision, c'était 60%. Donc, on prend 30% en un mois, on va dire. C'est évidemment porté par le marché de la mémoire. Et donc, c'est lié à l'IA, c'est lié au data center. Et le marché de la mémoire est en croissance de 250% cette année et va représenter 50% du marché des semi-conducteurs. C'est du jamais vu, en fait, cette croissance, un quasi-doublement du marché du semi en un an, beaucoup par les prix, parce qu'il y a des pénuries, il y a des shortages dans la mémoire, mais il y a aussi maintenant des pénuries, et c'est documenté, chez les fabricants de semi-conducteurs plus classiques, comme TSMC, Samsung, pour les nœuds les plus avancés, et même pour les nœuds de gravure un peu inférieure. C'est-à-dire que TSMC a été obligé de remettre du CAPEX à 3 nanomètres, qui est la génération précédente, et ça aussi, c'est du jamais vu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Et la deuxième chose, c'est une conversation. Vous savez, en tant qu'analyste financier, on a régulièrement des roadshows. Donc j'ai eu la chance de discuter avec les gens de ARM Holding, ARM, qui est une vraie réussite sur le marché récemment, puisque le cours a plus que doublé. Et en fait, leur thématique, c'est d'expliquer que le CPU, que l'agentique rend le CPU great again. C'est-à-dire que jusque-là, c'était les GPU pour entraîner les modèles, qu'il y avait quand même besoin de CPU, mais qu'aujourd'hui, avec l'IA agentique, on va avoir besoin de 4 fois plus de CPU.
Donc CPU, on peut rappeler, par
c'est les microprocesseurs classiques que vous avez dans un PC, par exemple. et qui sont moins puissants que des GPU, mais qui sont très bien pour certaines tâches, et notamment pour gérer les tokens d'accès au data center. Et donc, comme on rentre dans cette phase de, d'IA agentique, bah, on a besoin de beaucoup plus de CPU pour gérer ces tokens. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, assez lié avec l'évolution du marché qu'on a vu depuis le mois d'avril, à savoir qu'enfin, on a compris comment l'IA allait se monétiser via les tokens qui vont être payés par les entreprises, par les individus aussi, mais surtout par les entreprises, et qui vont coûter très très cher. Et donc cette validation du business case de l'IA, en fait, à mon avis, a certainement contribué largement à faire exploser tous ces stocks de façon unanime.
Et vous êtes dans la team bulle ou pas, là, sur tous ces stocks dont vous parlez, les semi-conducteurs ?
Non, je pense qu'on est dans un... Est-ce que les attentes montent trop vite par rapport à l'usage réel ? Peut-être, probablement, et ça, on ne peut jamais vraiment bien le sizer. Mais je pense qu'on est dans un moment très particulier où, dans 5 ans, on ne se posera plus la question. Et les infrastructures, elles sont construites aujourd'hui. Donc, oui, il peut y avoir de la volatilité, c'est sûr. Mais les multiples de valorisation qui sont couverts, on va dire, par les profits générés. Donc, les cours sont couverts par les profits générés. Donc, les multiples sont élevés, mais pas incroyablement élevés.
Il
n'y
a pas de surstock dans l'univers des semi-conducteurs, etc. Non. Parce que la peur du goulot d'étranglement, donc on y va beaucoup aujourd'hui pour moins y aller dans 2 ans.
On est très très loin. Par exemple, dans la mémoire, ça peut arriver un jour, hein. Mais dans la mémoire, on a un écart quasiment de 50% entre l'offre et la demande aujourd'hui. Donc ça, la pénurie de mémoire, elle va durer jusqu'à 2028. Ouais. De plus en plus, on dit jusqu'à 2029, et certains se risquent à dire 2030.
Comment vous regardez ça, Axel ? Alors vous êtes plus crypto, mais il y a des liens de plus en plus. Et on parlait de tokens, ça se perd en tokens. Donc allez-y.
Ouais, on parle de tokens, donc ça forcément. Ça... Non, moi je pense. Il y a plusieurs choses. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une révolution et que il y a un effort sur les capacités. Et qui sont des capacités finalement assez physiques derrière, qui est très important. Et que c'est quelque chose de complètement historique, donc par essence très difficile à pricer. Maintenant, je pense que le marché s'est aussi beaucoup transformé. Le marché action s'est beaucoup transformé. Il s'est un peu aussi gamifié. Il ressemble plus à la crypto qu'on connaît qu'au marché d'action de nos parents. Mmh. Et ça a des effets sur le pricing. Donc effectivement, ce qu'on voit là depuis 2 jours sur les semis, par exemple, sur une news sur Broadcom qui effectivement ne remet pas en question le trend global, c'est des choses qui sont coutumières de ce type de fonctionnement.
Et c'est vrai, ça vous rappelle un peu le marché crypto, c'est des groupes qui d'un coup prennent 40%, le lendemain moins 20, vous sentez chez vous là d'un coup. mais c'est intéressant, et c'est aussi effectivement le poids des particuliers croissant, notamment là-bas aux États-Unis lié à cette gamification de la bourse. Bah oui, c'est la démocratisation, puis on voit ici aussi d'ailleurs que les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Ça redevient trendy la bourse, ça c'est une bonne nouvelle. Intéressant vos indiscrets, mais Tech Stock c'est pour passer à l'action dès lundi là, dès la semaine prochaine. Il faut agir quand on investit dans la tech en bourse. Ceux qui agissent aujourd'hui feront les standards de demain. Alors on passe à l'action, les amis.
Antoine. Stéphane, vous nous aviez parlé de PVA Tepla.
Exact.
On est dans la métrologie.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, depuis le début de l'année, ça marche plutôt bien. Mais depuis la dernière fois qu'on en a parlé, ça s'est un peu, aplati la performance. Mais ça suit un peu ce qui se passe sur le marché en général, sur la tech en général. Mais on est toujours dans une phase d'expansion du chiffre d'affaires assez forte, puisque on attend toujours un doublement du chiffre d'affaires. Alors c'est une petite société allemande qui fait de la métrologie. C'est des systèmes de contrôle des wafers, et ils ont une technologie acoustique qui permet de contrôler très précisément, et c'est bien pour les nœuds les plus avancés et puis pour la mémoire HBM, donc la mémoire qui est utilisée dans les data centers. Donc on est très confortable, très confiant sur le fait qu'ils vont doubler leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu cher, on est à 30 fois l'EBITDA, mais si on tient compte des prévisions qu'on a et qu'on croit leur doublement de chiffre d'affaires d'ici 2028, on retombe à 12 fois, ce qui est assez raisonnable, et d'où notre position positive dessus.
Et Axel, vous aussi, c'est un petit nouveau, Robinhood.
Oui, je ne sais pas si c'est si nouveau, mais tout à fait. Robinhood, Robin des Bois. Ce que je trouve
pour vous, c'est une pépite, sérieusement, Robinhood. C'est une pépite.
C'est une pépite au sens où je trouve que c'est surtout leur business model que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de transformer complètement l'accès à la finance, c'est ce qu'on vient de dire. Et finalement, ils proposent à des particuliers américains un niveau d'accès, et aussi à des professionnels d'ailleurs, un accès qui est équivalent et qui est même plus large à ce qu'on a en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'on a accès à des actifs privés via la tokenisation, on a accès à de l'IA intégrée. Enfin, ils sont extrêmement innovants et ils sont acteurs. C'est, je pense, l'acteur le plus en pointe de cette transformation du marché depuis 2020 à peu près. Qu'on a vu complètement transformer la manière dont traite le marché actions américain. Et aussi un acteur évidemment de la convergence, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la convergence entre le monde crypto via la tokenisation et le monde de la finance traditionnelle.
Oui. Et c'est intéressant de les voir par exemple sur l'introduction en bourse de SpaceX la semaine prochaine, Robinhood, puisque contrairement à beaucoup d'autres plateformes d'investissement, Robinhood n'imposera aucun solde minimum à ses clients pour acheter le titre SpaceX, alors que d'autres au contraire vont réclamer un solde minimum histoire de demander à leurs clients est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir y aller quoi.
Ils sont très innovants et c'est les premiers aussi à mettre en accès aux États-Unis à leurs clients les marchés de prédiction. Ça a été les premiers aussi via la tokenisation à donner accès à certaines entreprises non cotées via de la tokenisation sans forcément avoir d'ailleurs la validation des entreprises elles-mêmes. Donc ils sont comme ça très dans l'innovation de rupture pour accélérer la démocratisation. Bon. On verra comment ça fonctionne. Oui. Je pense que c'est eux qui ont raison et qui vont emporter les parts de marché.
À la fin, les derniers seront les premiers, c'est ça votre idée? Voilà, ouais. Parce qu'il y a toujours une forme de mépris du marché hein, vis-à-vis d'un groupe comme Robinhood.
Mais parce qu'en fait, ils partent du particulier. Ils parlent d'abord, enfin, ce qu'ils défendent, c'est les intérêts des investisseurs dits les moins sophistiqués. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils donnent les moyens à ces investisseurs comme vous et moi d'accéder à l'information et de faire les choses bien. Et à toutes les opportunités d'investissement. Ce qu'ils ont fait sur l'IA aussi est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agents qui peuvent gérer votre portefeuille, gérer vos paiements, tout ça avec de la sécurité. C'est très, très impressionnant.
On va regarder le potentiel technique de tout ça. Voilà deux pépites que vous nous proposez. Mais en bourse, si on investit dans la bonne valeur au mauvais moment, ben, c'est pas bien. Le timing et l'analyse graphique, ça compte. Le Trade Tech, notre trader Valentin Nico est avec nous. Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Vous allez nous dire ce qui relève de la tech tonique, la tech qui garde du potentiel, puis la tech en toc, celle qui risque de s'essouffler. On démarre par le Nasdaq. Aujourd'hui, il perd 2%. 2% de baisse, le Nasdaq, c'est pas tous les jours. C'est vrai qu'on a eu un rapport sur l'emploi américain qui plaide pas pour des baisses de taux. Alors c'est peut-être aussi le déclencheur de cette baisse du Nasdaq. Est-ce qu'après la hausse des dernières semaines, le Nasdaq devient de la tech en toc, d'après vous?
Alors nous, sur la dernière jambe de hausse, on sentait qu'il y avait un peu d'euphorie par plusieurs indicateurs, notamment le ratio call-put. On sentait qu'il y avait très peu de protection dans ce marché. Et on s'attend à une réintégration donc du canal haussier de 2022. Donc de notre côté, on ne serait pas surpris par une prise de bénéfices et une correction de 5-6% à court terme. Et on est très méfiant depuis en fait la sortie par le haut de ce canal. Et on attend de le réintégrer avant de chercher certains dossiers. Donc plutôt méfiant.
Alors Valentin, on voit que depuis quelques jours, la tendance est quand même relativement négative sur la tech, notamment la tech américaine. Est-ce qu'il y en a une qui se distingue quand même par ses dynamiques haussières?
En tout cas, l'euphorie, c'est vous êtes au courant, c'est donc toute la thématique IA et notamment les semis. Donc si on devait forcément acheter aujourd'hui un dossier, on irait sur Netflix, qui revient sur $80 à peu près, 80-46, et on viserait un retour vers les $100 à court moyen terme. Et voilà. Donc on irait plutôt sur ce dossier si c'était aujourd'hui.
On peut dire que c'est disruptif ça comme scénario. Cela dit, parmi ceux qui ont une tendance franchement négative, vous relevez quel cas particulier?
Alors nous, c'était pas une tendance forcément trop négative parce que on va viser la prise de bénéfices sur les dossiers semi, notamment Qualcomm, qui fait une belle baisse aujourd'hui, 5-6%, et on s'attend à un retour. $200, on viserait $200, on est actuellement à $230, voilà, donc ça ferait un petit bénéfice tout de même.
Valentin Nico avec nous pour Bourse Direct, merci beaucoup. Valentin, merci dans TechStocks, la tech prend le pouvoir et Axel, Stéphane, Antoine, la tech vous pose sa textion. Ah, c'est la textion. Ça, c'est le vendredi dans TechStocks. L'IA pose elle-même sa question. On lui demande, en fait, c'est à Gemini, là, aujourd'hui, qu'on a demandé de vous poser une question liée à l'actualité et à SpaceX. On inverse les rôles, quoi. On en a marre, l'IA, qu'on parle tout le temps d'elle. C'est elle qui vous interroge ici. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Axel, voici la question de Gemini. L'introduction en bourse de SpaceX dans une semaine pourrait-elle siphonner les liquidités disponibles pour le reste de la tech et entraîner, pourquoi pas, des ventes sur le Bitcoin pour aller financer cette introduction en bourse? Axel.
Des ventes sur le Bitcoin, je pense pas, mais On n'a jamais vu de telles IPO. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu autant, mais en fait, on n'en a jamais vu de telle taille. Donc oui, c'est un risque, très clairement. Je pense que le risque aussi, c'est tout ce qui va se passer après l'IPO, hein, avec beaucoup d'insiders qui pourraient, une fois que les lock-ups sont passés, revenir, vendre aussi, profiter de la nouvelle liquidité sur le titre. Maintenant, honnêtement, bon, on parle de beaucoup d'argent en milliards de dollars. Mais à l'échelle de la capitalisation mondiale, c'est pas non plus si énorme que ça. Donc voilà, moi je suis plus inquiet des valorisations en tout cas sur SpaceX, que véritablement d'un impact sur la liquidité.
Et vous, est-ce que certains qui ont des belles plus-values dans les semi-conducteurs, votre secteur fétiche, Stéphane, voudront prendre leurs plus-values, les utiliser pour investir dans SpaceX ?
Il y en a forcément qui vont le faire, mais je suis assez d'accord. C'est bon, c'est un risque. Il y a quand même des grosses IPO hein, qui arrivent derrière, donc je pense qu'ils ont quand même réfléchi à ça et donc normalement c'est backé. Mais effectivement, je suis assez pas inquiet, mais on va regarder ce qui va se passer derrière. L'aftermarket va être intéressant, sachant que bon, voilà, les prévisions des analystes, en tout cas ce qui filtre dans la presse. Voilà, sont bien gonflés et donc on a l'impression que ça va partir positivement au début, puis après il va y avoir un reality check et ça c'est dangereux.
Oui, on rappelle que SpaceX finalement n'intégrera pas le S&P 500 avant au moins 12 mois, alors qu'il intégrera le Nasdaq au bout de seulement 15 jours. L'indice S&P choisit de ne pas changer ses règles, même si c'est SpaceX, alors que l'indice Nasdaq au contraire va changer les siennes. On en reparlera dans un instant dans la suite de BFM Bourse. Vous suivrez quoi d'autre la semaine prochaine, Stéphane?
On va continuer de regarder les résultats qui sont des... même s'il y en a moins la semaine prochaine, mais il y aura au moins Oracle, qui est un acteur intéressant parce que c'est également, ils sont vus aussi comme un hyperscaler et ils sont aussi vus comme ceux qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont pour courir dans cette course. Et donc, je pense que c'est un point de référence important.
Oracle à suivre côté Stéphane. Et vous, Axel, qu'est-ce que vous suivrez ?
Alors moi, je vais suivre aussi la même chose, hein, parce que je pense que là, tout ce qui se passe sur les semis, c'est très, très important pour juger un petit peu de l'état du marché en général. Mais je vais suivre aussi ce qui se passe côté crédit digital, stretch et stratégie, qui, à mon avis, va donner le ton sur le timing du rebond potentiel sur Bitcoin.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Axel Cabrol, directeur général de Tobam, et Stéphane Houri, analyste tech pour Odo BHF. Bon week-end, cet épisode de Tech Talks est à retrouver en podcast et en replay tout au long de la soirée du week-end. N'hésitez pas à en parler à vos amis. On est dans le futur dans Tech Talks. Dans un instant, c'est la dernière demi-heure de cette séance en Europe qu'on va vivre ensemble avec Antoine. Puis on verra si le S&P arrive à enchaîner une 10e semaine de hausse d'affilée. Pas évident avec la baisse du jour. Si on a une 10e semaine de hausse d'affilée, ce serait quand même un record. Une série record depuis 1985. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.